Vive l'irrégularité. Deuxième partie. Il s'agit de la 25e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Nous nous retrouvons dans le Limousin à la rencontre régionale organisée le 9 et 10 novembre 2018 par le RAF, le réseau pour les alternatives forestières. Dans cette émission, nous écouterons plusieurs participants qui, chacun ou chacune à sa manière, cherchent à combattre le modèle dominant de gestion industrielle de la forêt. En développant ou encourageant une sylviculture douce, respectueuse de ses écosystèmes et des personnes qui y travaillent. Dans la première émission, nous sommes partis en balade en forêt avec Hans Kreuzler, l'un des membres du collectif forestier Environnement Limousin. Écoutons maintenant, pour commencer, Loïc et Rémi, qui font également partie de ce collectif.
Voilà, nous on a entrepris ça parce qu'on travaille déjà un peu tous depuis un bout de temps en forêt, qu'on est tous passionnés et qu'on est un peu désarmés face à ce qui se passe en général pour la plupart des parcelles qui tombent entre les mains de professionnels. Donc on essaye de sensibiliser les gens pour faire autrement parce qu'on pense que c'est possible et que c'est bien pour eux.
Quand tu dis les gens, c'est le propriétaire surtout ?
Les propriétaires, bien sûr. Oui, les propriétaires. On peut aussi évoquer les propriétés collectives, les communes, etc., qui aussi, des fois, sont dans la marche habituelle de la forêt en production intensive, quoi. Et pas tout le temps, mais souvent aussi. Et donc, voilà, on aimerait autre chose pour tout ce patrimoine qui nous entoure.
Alors, vous êtes combien ? Je crois que vous êtes tous ce qu'on appelle des indépendants, mais vous vous êtes mis ensemble dans un collectif. Et je sais qu'il y a Emeline et Emmanuel, par exemple, que je trouve assez remarquable parce qu'ils ont quitté une coopérative où ils avaient une sorte de boulot, une carrière assez costaud, quoi. Et là, c'est quand même un défi, ce que vous faites, j'imagine, parce qu'il faut trouver des gens qui veulent aller dans votre sens, et c'est moins facile, ou enfin facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais les coups bras et babamam, c'est un peu ce que tout le monde fait ici, et vous voulez développer autre chose, si j'ai bien compris.
Oui, bah c'est un petit peu ça. Alors, démunis, oui, on se sent, c'est vrai que par rapport à des coopératives ou des choses comme ça, on est peanuts, on va dire. Mais on pense qu'il y a... Il y a de la place pour un autre type de sylviculture et de faire comprendre au moins aux gens. Alors quand on parle aux propriétaires, c'est vrai qu'on s'adresse aux propriétaires, mais aussi aux gens qui habitent dans ces zones-là, qu'il y a d'autres façons de faire. Et vraiment, on va dire, au moins offrir un choix. Après, le propriétaire qui, quelque part, veut couper un rat, il a le droit de le faire. Bon, pourquoi pas. Mais au moins savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Et ça, au moins, c'est important. C'était surtout au début quand même... par rapport à la communication qui était faite depuis un bon bout de temps, depuis le programme national sur la forêt, depuis des choses comme ça, où on mettait l'accent et où les coopératives, enfin tous mettaient l'accent, on va dire, sur la mobilisation du bois. Mobilisation du bois, on sait ce que ça veut dire, c'est couper plus de bois. Nous, on disait, mais il faut qu'on fasse autre chose pour montrer, enfin, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Et donc, notre but, c'est de promouvoir un autre type de sylviculture, alors pas forcément de façon intégriste, loin de là, les personnes qui veulent faire un truc classique, ils ont le droit de le faire, mais de au moins montrer qu'on peut faire aussi bien, aussi productif, et en ayant une vraie forêt vivante. Voilà, une forêt qui remplit toutes ses fonctions, qui est vraiment multifonctionnelle et qui n'est pas simplement unifonctionnelle, c'est-à-dire uniquement une usine à bois, quoi. C'est tout.
Et je veux dire, cette région, au fond, pas mal de gens disent qu'il n'y a pas vraiment une culture de gestion de forêts, parce que c'est des forêts, surtout sur le plateau, hein, qui ont été installées sur des landes. Enfin, c'est pas comme les Vosges ou je sais pas où il y a vraiment une longue histoire de culture. Donc, quelque part, je ne vais pas dire que vous êtes les précurseurs, mais pour que, quelque part, vous essayez de proposer d'autres formes d'une sorte de culture de gestion de forêt qui est vraiment complètement différent de ce qui est très très courant, on pourrait dire.
Oui, en même temps, c'est dingue parce qu'on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. On, on va juste un peu dans la logique des choses, quoi. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'on défriche un truc inconnu, mais... Non, enfin, je sais pas, même les agriculteurs, du début du siècle, ils faisaient mieux la forêt que ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a inventé l'eau chaude, quoi. C'est juste essayer de voir les choses sous différents angles, moi, il me semble. Hein.
Alors, ça m'intéresserait de savoir si... parce que, je veux dire, là... Le film Le Temps de Forêt de François-Xavier Drouet, qui il a fait un film avant qui s'appelait Bois Noir, et donc c'est le premier film, c'était vraiment uniquement sur, enfin quasi uniquement, peut-être le Morvan aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Limousin. Maintenant, Le Temps de Forêt, c'est en grande partie, c'est sur le Limousin, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de projections, si je comprends bien, dans la région ici, dans tous les différents villages. Comment vous sentez la réaction? Qu'est-ce que ça impulse? Enfin, j'imagine qu'il faut parler d'une part de la profession. J'imagine qu'il y a des gens qui sont n'aiment pas, qui sont quand même un peu critiqués leur manière de faire. Mais il y a aussi les citoyens, les villageois, qui peut-être découvrent des choses qu'ils ont peut-être un peu vues, mais ça confirme quelque part peut-être des choses qu'ils avaient trouvées pas, qui tournaient pas rond. Je sais pas. Comment vous sentez?
Ah bon, ce qui est certain, enfin pour ma part sur la projection notamment auquel je suis allé à Aubusson, mais apparemment d'après ce qu'on en dit, Le Temps des Forêts a quand même bien cartonné dans un peu partout. Il a été vu par énormément de monde hein, en Limousin et au niveau de la population, c'est-à-dire des gens, il a été très très bien accueilli globalement, et des gens même qui n'étaient pas forcément des militants, mais des gens de voisinage qui sont allés le voir, ont dit oh, oui c'est vrai ce qu'ils disent et tout. Et donc, il a été bien perçu. Après, justement, au niveau des forestiers, ça a été beaucoup plus difficile parce que ça a été vécu comme une attaque sur leur métier. Et ça peut se comprendre que ça soit mal vécu, quoi. Mais en même temps, le fait que déjà ouvrir les yeux à la population, quoi, sur ce qu'est la forêt, parce que au niveau local, bon, c'est vrai qu'on a, au niveau culture, on a peu. Mais il y a quand même, ça fait 100 ans qu'il y a de la forêt. Mais au niveau national surtout, c'est-à-dire faire comprendre aussi à la population en général, française et notamment urbaine, que la forêt c'est 30% du territoire, mais c'est ce qui produit du bois. Et il y a tout un tas de problématiques derrière. Et quand ils ont un morceau de bois dans les mains, de savoir d'où il vient et comment il a été produit, ça devrait les alerter. Et ça, je pense que ça a fait quand même son office. Alors après, effectivement, là, localement, la profession n'a peut-être pas dû toujours accepter.
Malheureusement, j'ai assisté à une seule séance à Aubusson, là, chez moi, et effectivement, j'étais surpris de voir la diversité de la clientèle, le monde qu'il y avait. Il y avait des professionnels, mais il y avait plein de papis, mamies qui s'étaient déplacés pour une fois pour aller au cinéma. Je pense effectivement que ça a touché les gens. Les gens ne sont pas complètement... nier ou inculte, ils savent aussi faire la part des choses et tirer ce qu'il y a d'essentiel dans ce film. Voilà, je pense que oui, ça a touché vraiment des gens qui d'habitude s'impliquent pas forcément dans ce genre de problématiques, quoi.
De toute façon, ils ont confronté quotidiennement avec des coupes rases, non? Je veux dire, tout le monde voit ça, hein.
Oui, mais en fait, ils vont râler dans leur coin, etc., dire oh, c'est triste et tout, mais ils vont pas chercher à savoir le pourquoi du comment et pourquoi ça se passe comme ça, surtout. C'est ça, en fait. Et là, le film, malgré tout, il met le doigt sur des choses qui interrogent vraiment les gens, quoi.
Donc, pour revenir à votre collectif, vous êtes, je crois, 7, c'est ça, ça ouais. Et ça fonctionne? Je veux dire, vous arrivez à trouver des gens, est-ce qu'il y a, qui veulent bosser avec vous? Est-ce que c'est un peu ardu ou... Enfin, c'est le début. C'est ça? Oui, quand est-ce que ça a été créé, en fait?
Ça fait un an et demi, à peine 2 ans, quoi. Donc, c'est juste en construction. Et c'est vrai qu'en 2 ans, déjà, on a beaucoup évolué, en tout cas dans nos réseaux, dans nos connexions avec le monde extérieur. Ça nous apporte beaucoup, de toute façon. On va pas dire que qu'on a eu une pluie de clientèle depuis qu'on a créé ça, c'est pas ça. Mais disons que c'est quelque chose qui se construit petit à petit et que, voilà, qu'on commence à avoir de l'écho, oui.
Ok, mais merci.
Merci à toi. Thank you.
Chantal et Philippe d'Ambiance Bois. C'est au moins la deuxième fois qu'on parle d'Ambiance Bois dans ces émissions. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a, semble qu'il y a une évolution intéressante ces derniers temps. Peut-être quand même rappeler très rapidement qu'est-ce que c'est Ambiance Bois, avec un côté très important social, enfin un peu d'histoire, mais très court. Et après, on peut aborder ces nouveaux éléments parce que vous cherchez d'autres espèces, vous voulez travailler avec des gens, enfin, savoir d'où vient le bois, etc.
Bah, du coup, Ambiance Bois, c'est une société qui existe depuis 30 ans. C'est une société coopérative donc, qui a eu comme base de faire en sorte de travailler, de transformer du bois en ayant une organisation collective sans patron, donc avec tous le même niveau de salaire, etc. Et on est installé sur le plateau de Mille Vaches à Faux-la-Montagne depuis. Et en transformant, l'idée de transformer donc le mélèze de coupe qui était plutôt du mélèze d'éclaircie et puis aussi du mélèze de plantation quoi, et du Douglas. Et donc avec ça, on fabrique des parquets, des lambris, du bardage, voilà. Et puis depuis quelques années, enfin, depuis de nombreuses années quand même, il y a un secteur qui s'est pas mal développé aussi, qui est tout autour du chantier et de la mise en œuvre en fait, des matériaux et de la construction de maisons en ossature bois. Voilà, et depuis quelques années, depuis les 25 ans, en fait, au moment des 25 ans, on a pris le temps de discuter autour des approvisionnements et des questions que ça nous posait, en fait, de s'approvisionner avec de la forêt industrielle. Et du coup, à la suite de cet atelier, on s'était dit, ouais, ben, ça serait bien qu'en Ambiance Bois, petit à petit, on évolue sur nos types d'appro. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à tenir un petit bout, là, du truc, puisqu'il commence à y avoir sur le parc à Billon du châtaignier. Enfin, voilà, la semaine dernière, il y a du châtaignier qui a été scié. Et on a du chêne qui sèche, on a du frêne, on a du hêtre, voilà.
Mais ça vient en fait, ça vient de quelle forêt ça? C'est des gens que vous connaissez ou comment vous en fait vous cherchez ce bois qui n'est pas le même que vous avez traditionnellement pris?
Eh ben en fait, on n'était donc pas du tout satisfait de l'approvisionnement qui est encore un petit peu en vigueur en Ambiance Bois, hein, qui est l'approvisionnement qui est fait par des grosses coopératives et qui sont pratiquement donc issues uniquement de forêts industrielles, en tous les cas de monoculture et principalement de coupe rase. Et vu que c'était pas spécialement en accord avec notre éthique, et puis qu'on est quand même à une deuxième génération de salariés, hein, l'usine a 30 ans, et donc s'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a d'autres aspirations, et notamment de pouvoir transformer les bois qui sont vraiment locaux ici, qu'ils soient feuillus ou résineux, mais qui ne soient pas issus des plantations industrielles et de la monoculture. Et donc on a commencé tout simplement par avoir des approvisionnements via des paysans dans le coin qui nous ont vendu des hêtres. Et puis on a rencontré le groupe qui est un groupe aussi qui émerge de gestionnaires de forêts qui sont axés sur la sylviculture douce. Et avec ces gens-là, on a commencé un travail donc, pour pouvoir collecter du bois, principalement des feuillus, mais aussi des résineux, mais qui sont issus d'une gestion de la forêt continue et qui donc correspond beaucoup plus à nos envies, quoi. Et l'objectif, c'est donc, je pourrais dire, d'élargir notre slogan pour dire que maintenant, on travaille de la forêt à la maison et non plus simplement que de l'arbre à la maison, parce que maintenant, on a choisi où est-ce qu'on prend nos arbres. Voilà.
Mais ça nécessite, si je comprends bien, aussi de nouveaux matériels, parce que le scie que vous avez, c'est un peu particulier, hein, le système que vous avez eu jusqu'à présent. Et là, vous savez, je crois que vous voulez travailler avec une scierie ou reprendre une scierie qui est plus amène de travailler ce bois châtaignier, etc.
Oui, ben, en fait, depuis quelques années déjà, on se pose des questions sur notre scie, qui est une scie alternative à multilame, qui permet de transformer du bois d'une longueur pas plus de 3 mètres, avec des diamètres bien enfin de 40 ou 50, je sais pas, jusqu'à 50 cm, on va. Pour arriver à transformer d'autres types de bois, on ne peut pas le faire avec cette scie. Donc on réfléchit depuis quelques années à s'équiper d'une scie pour faire nous-mêmes des débits sur liste avec du Douglas un peu plus gros, et etc., et qui nous permettrait aussi de transformer du feuillu. Donc là, on est en discussion avec un sieur qui veut partir à la retraite, qui va partir à la retraite, et qui cherche des repreneurs en fait pour sa scie. Donc voilà, on est en pleine discussion et pour l'instant rien n'est fait. Tout est dans nos mains, quoi.
Pas loin de Faux, quoi.
À une quinzaine de kilomètres.
Bon, autre question par rapport à l'actualité. Hein. Je veux dire, quelque part, le Limousin, on en parle beaucoup. Grâce à ce film de François-Xavier Douai, pas forcément d'une manière extrêmement positive, enfin, parce que ça montre vraiment des dérives de cette... il appelle ça malforestation, etc. Moi, ça m'intrigue de savoir comment ça a été reçu. Parce que d'une part, il y a la profession, je crois qu'il y a quand même des tensions parce qu'il y a des gens qui se sont attaqués, d'autres qui peut-être sont un peu d'accord qu'il faut, peut-être comprendre qu'il y a des problèmes, un peu des dérives. Mais après, il y a les citoyens, les habitants dans les villages. Comment vous avez ressenti un peu ce regard tout d'un coup jeté sur la forêt chez vous ?
Bah, je peux donner mon point de vue au moins. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bienvenu, ce film. Et il arrive à point nommé parce que bon, ce qui se passe chez nous, c'est quand même assez scandaleux. Et je pense que le film le montre bien. On est je pense, avec les Landes, les massifs les plus meurtriers de la forêt en France. On peut bien le constater. Et quand on voit aussi le malaise qui se passe à l'ONF, les dégâts qui se passent chez nous, enfin bon, il y a eu le projet d'usine à Pelé qui aussi existe sur le territoire et qui permettrait sûrement de finir de ravager complètement la forêt sur 80 km à la ronde. On ne peut que être satisfait de ce film qui alerte l'opinion, qui n'est pas forcément au courant de toutes ces choses-là et qui fait vraiment... Enfin, moi, je vois, le film a été projeté chez nous à Émoutiers pendant 3 séances, salle comble, avec des débats de très haut niveau. Et je pense qu'il y a vraiment... C'est le moment. Les gens sont sensibilisés à ça. Ils en ont ras-le-bol de voir leur espace bafoué, les forêts massacrées. Et il faut que... Je pense que c'est le tournant. Ce film-là, il arrive vraiment à point nommé. Je comprends bien évidemment que les gros forestiers ne soient pas très contents de ce film. Et on a même fait des critiques assez acerbes, quoi.
En tout cas, j'étais intrigué par un autre participant de cette rencontre qui, pour lui, ce qu'il apprécie beaucoup dans le film de François-Xavier, c'est, pour lui et les gens avec qui il a discuté, tu sens que c'est quelqu'un qui aime la forêt et qui montre le système qui impose aux acteurs, si on va les appeler comme ça, la manière de travailler. Et en fait, c'est même, ils sont broyés quoi, dans un système, ils ont poussé à faire des choses par ce système, avec ces méga-séries et tout ça. Mais si on balade à Faux, n'importe où, ou dans le bistrot, ça se discute. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, je me demande, parce que je trouve aussi que le truc de l'ONF, le marche et tout ça, une profession très fermée en général, mais là, des gens qui font aussi un cri d'alarme, une alerte, que ça va dans le mur, c'est par la bonne direction, l'ONF, le gouvernement et tout. Et donc, qui recherchent un soutien de citoyens, quelque part.
Oui, moi, en tous les cas, à Émoutiers, où j'habite, donc, qui est juste à côté de Faux-la-Montagne, là, une quinzaine de kilomètres, moi, je suis élu à la commune. Je suis responsable du secteur de la forêt, donc je travaille avec les agents ONF. Et il y a quelques années, quelques travaux forestiers qui ont été l'objet d'un scandale parce que fait d'une manière détestable. Et les gens se sont sentis blessés de leur territoire, de voir à quel point la forêt était massacrée. Ça a créé vraiment quelque chose, un espèce de schisme dans la population, avec des tags plein la ville. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une colère et une indignation face à ces agissements. Et donc, on a eu à la commune, parce que nous, notre commune a 650 hectares de forêt publique, on a eu donc des pourparlers avec l'ONF pour exiger la révision du plan de gestion pour pratiquer une autre sylviculture. Et on a des pourparlers super intéressants avec ces gens qui sentent bien qu'eux, ils ne veulent plus être simplement des producteurs de bois, mais qui voudraient retrouver leur métier de gestionnaire forestier. Qu'ils ont évidemment des impératifs nationaux qui leur sont dictés, notamment le fait de devoir vendre beaucoup de bois pour pouvoir se payer, enfin faire fonctionner leurs services. Et que du coup, ils sont plutôt contraints à faire des ventes assez forcées et en quantité, avec des rotations courtes. Mais quand on les questionne sur leur métier et qu'on exige autre chose en tant que propriétaire public, on sent bien que le métier remonte et qu'ils ont des envies de travailler correctement. Et je pense qu'on a, en tous les cas, avec la forêt publique, des marges de négociation. Ce qui est très difficile, c'est avec la forêt privée, quoi.
Juste là-dessus, ça m'intéresse. Je veux dire, moi j'ai toujours entendu que des moments où on peut avoir un impact sur les plans de gestion au fond des forêts communales, c'est quand ils refont le plan de 20 ans. En général, c'est 20 ans, je crois, 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Mais est-ce que, dans ce cas-là dont tu parles, est-ce que c'est au milieu d'un plan que vous arrivez à proposer peut-être un changement ?
Oui, on se trouve, normalement le plan de gestion s'est terminé en 2023 et nous on a dit qu'on n'était pas d'accord que ça continue comme ça jusqu'en 2023. Et le responsable régional est donc venu en personne avec les techniciens pour discuter de ces choses-là. On a mis les choses sur la table, on trouvait que la gestion n'était pas assez exemplaire et que la systématisation des coupes rases et des ventes sur pied, ça ne nous plaisait pas et qu'on voulait que ça soit revu. Donc ils en ont discuté et ils nous ont proposé de le réviser complètement. Hein, parce qu'à un moment, il était question de faire simplement des amendements et on a refusé ça. Et donc le plan de gestion est revu là donc, pour une période de 15 ans maintenant. Il est en route, il va être effectif en 2019, alors que théoriquement, il devait aller jusqu'à 2023. Donc on l'a arrêté en cours de route.
Un plan avec lequel vous pouvez dire que vous êtes d'accord ?
Un plan dans lequel c'est très très protocolaire. Donc l'ONF a un questionnaire type qui est très serré, qui tient compte des objectifs nationaux, régionaux, mobilisation du bois pour la biomasse, etc. Et voilà, donc eux, ils ont leurs impératifs. Et puis en bas de la page, il y a nos souhaits. Et donc nous, on a une liste de souhaits suffisamment longue pour les perturber. Comme quoi, on ne souhaitait plus qu'être coupe rase, mais qu'on travaille plutôt sur de l'amélioration ou de la régénération naturelle, qu'on voulait des chantiers exemplaires, qu'on voulait plus de culture, de monoculture, qu'on voulait forcément des plantations mixtes, qu'on voulait que la surface qui est en feuillu aujourd'hui, dans 15 ans, soit toujours conservée, qu'elle ne soit pas déforestée au profit des résineux. Enfin, voilà, c'était vraiment ce que nous, on voulait. Ça va être mis en œuvre dans le nouveau plan de gestion.
Ben, merci. Hein. Merci beaucoup. Marie, tu viens de Dordogne, à cette réunion du RAF, donc dans le Limousin. Et apparemment, tu viens d'une famille qui est propriétaire de forêt, d'une forêt. Et en fait, de plus en plus, si j'ai bien compris, tu t'intéresses à cette question, comment c'est géré, etc. Peut-être tu m'as expliqué.
Ma famille a une propriété avec une forêt de 48 hectares. Pendant 90 ans, elle n'a pas été exploitée du tout, elle a été laissée à l'état naturel. C'est une forêt dans laquelle on a beaucoup de souvenirs, on aime beaucoup passer du temps à aller cueillir les champignons. Elle est dans un coin qui est la vallée de l'Homme, donc il y a beaucoup de grottes tout autour. C'est un coin historique. Il y a une zone, une partie de ces terrains qui est classée Natura 2000. Donc c'est un classement pour préserver la nature. Donc voilà, donc on est quand même attaché à cette forêt, mais il y a à peu près 8 ans, ils ont confié la forêt à une coopérative agricole il y a quelques années, car il y a 8 ans, nous avons reçu l'obligation d'entretenir la forêt. Un membre de ma famille s'est occupé de la confier à une coopérative agricole. Et il y a eu deux parcelles qui ont reçu des coupes presque rases, c'est-à-dire qu'en laissant un arbre par-ci, un arbre par-là, on s'est aperçu que les arbres ne repoussaient pas bien.
Juste pour comprendre, alors c'est une lettre que vous avez reçue qui dit voilà, ça ne va pas, vous exploitez pas assez votre forêt, en gros, ou quoi ?
Elle dit, vous devez entretenir votre forêt. Il n'y a personne qui s'en occupe. Et après, je me souviens plus d'où venait, de quel organisme venait. C'était un organisme officiel, donc c'était comme une obligation faite par l'État. Je ne sais pas exactement d'où ça provenait. Enfin, je vais me renseigner à ce sujet, mais là, je ne suis pas capable de répondre là tout de suite à cette question. Voilà, mais ça a déclenché voilà, le fait que la forêt était confiée à une coopérative agricole qui a fait un plan de gestion jusqu'en 2025. J'ai lu le plan de gestion. Il parle de mettre des produits chimiques, de faire des coupes rases dans certains coins de la forêt. Il y a une vision seulement économique. Telle parcelle sera utilisée pour faire des palettes. Alors, quand moi, c'est la forêt que j'aime, ça me fait bizarre de voir des palettes à la place de certaines parties de cette forêt. Et donc, mon projet, c'est d'amener une autre utilisation de cette forêt, de préserver ces écosystèmes, peut-être tout en prélevant certains arbres, de faire comme une sylviculture raisonnée, douce. Donc je suis en train de monter ce projet et c'est pour ça que je viens au RAF pour avoir des aides, des informations, rencontrer des professionnels, avoir des contacts. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça m'ouvre, je découvre des tas de choses qui sont possibles en fait et ça me donne beaucoup d'espoir. Et ce qui, dans mon projet, ce qui est aussi important, c'est que je trouve les bonnes façons de communiquer pour faire que ma famille aille dans ce sens.
Parce qu'en fait, dans la famille, il y a personne qui a vraiment beaucoup de connaissances pour la gestion forestière. Et là, tu dois quelque part essayer de les convaincre d'abandonner ce qui pourrait sembler le plus économiquement prometteur, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Mais ce que je m'aperçois, c'est que, par exemple, il y a une parcelle où il y a une coupe rase, ils ont eu un gain de 2000 euros. Mais derrière, ça ne repousse pas. Donc, ils vont devoir replanter. Donc là, moi, je ressentais que qu'ils allaient perdre de l'argent. Et là, j'ai pu discuter avec d'autres professionnels, dont des forestiers, qui m'ont dit oui, effectivement, ce n'est pas rentable du tout. Qui m'ont confirmé ce que je ressentais. Et donc, il s'agit de faire comprendre ça à ma famille pour qu'on change de système. Donc, moi, il y a beaucoup d'idées qui me plaisent, comme le débardage à cheval. Voilà, d'autres idées, comme cet après-midi, nous avons rencontré un forestier que tu as interviewé.
Un gestionnaire
de forêt. J'ai beaucoup aimé comment il s'y prenait. Donc, et à la suite de ça, j'ai rencontré une professionnelle qui était aussi gestionnaire de forêt, qui m'a dit qu'elle faisait beaucoup de conseils, qui était même ouverte sur les idées de débardage à cheval, qui conseillait les propriétaires et qui était ouverte à l'idée d'écosystème, pour laquelle c'était important l'idée d'écosystème dans la forêt. Donc voilà, je suis très heureuse de tous ces contacts. Et par exemple, je me dis peut-être que je peux mettre ma famille en contact avec elle et elle pourra peut-être leur expliquer et puis mettre en contact avec des professionnels qui géreront bien cette forêt. Et autour de cette forêt, en fait, je la vois. Je monte ce projet, c'est juste pour la préserver. Mais j'ai envie d'aller au-delà. J'aimerais peut-être. C'est une chance, c'est comme un cadeau de la vie d'avoir une forêt. Voilà, et il se trouve qu'elle est dans ma famille, donc je vais tout faire pour la préserver. Et j'ai envie peut-être que ce soit un moyen de sensibilisation du public autour de la forêt. Donc pourquoi pas créer des événements plus tard? Parce qu'il y a aussi un château qui va avec cette forêt, donc on pourrait peut-être accueillir des événements, créer une dynamique autour de la forêt, créer quelque chose. Et je commence à documenter un petit peu ma démarche. Je me dis, voilà, je pourrais peut-être transmettre ça à d'autres pour qu'ils puissent avoir des ressources pour préserver aussi leur forêt ou préserver d'autres forêts. Et je trouve que c'est passionnant aussi toutes ces rencontres qui se passent autour.
A priori, votre famille, les autres, il y en a qui veulent absolument que ce soit très rentable. Ils attendent beaucoup d'argent, en fait. Pas tellement.
Moi, je pense pas tellement. Mais c'est l'idée que ça leur apporte un peu d'argent. En fait, cet argent, c'est pas pour eux. C'est parce que c'est comme il y a un château qui va avec la propriété, ça coûte de l'argent d'entretenir un château, donc c'est juste peut-être pour que ça soit moins lourd financièrement sur leurs épaules. Donc voilà, mais je pense qu'il faut qu'on trouve une autre façon que de travailler, en tout cas avec cette coopérative ou ces anciens systèmes d'exploitation de la forêt. Parce qu'à court terme, De ce que j'ai bien compris ici au Rassemblement, c'est que c'est à court terme, on touche de l'argent tout de suite, mais à long terme, il n'y aura plus de forêt, donc voilà, il n'y aura plus de revenus, en fait, ou même il n'y aura plus ce beau lieu dans lequel on aime se balader, et ça n'a pas de valeur, en fait. Il y a des choses qui peuvent se chiffrer matériellement, mais quand on y réfléchit, c'est comme notre santé. Quel est le prix de ma santé ? Elle est inchiffrable. Et une forêt, pour moi, c'est pareil.
Même le climat de la planète. Oui. Des choses beaucoup plus vastes que chacun, quoi, mais qui, ou l'eau. Vraiment, s'il fallait payer le travail que fait la forêt pour purifier l'eau par une autre méthode, ce serait, on n'y arriverait pas. Ce serait impossible. Donc, mais tout ça, ce n'est pas trop pris en compte, on dirait, par les coopératives. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est intéressant que, que la société, les propriétaires de forêts s'emparent de ça et donnent son point de vue. Parce que la coopérative, mon avis, c'est que forcément, elle est partie prise, donc elle va essayer d'avoir les choses au moins chères. Donc elle va forcément dévaloriser... Le prix du bois pour faire des bénéfices.
Bon, merci beaucoup. Alors Sylvain, on a déjà parlé à Radio Zanzine un peu de fêtes et racines.
Oui.
Mais j'aimerais quand même que tu rappelles un tout petit peu de quoi il s'agit. Et il y a quand même une actualité, parce que vous êtes en train de lancer un appel pour pouvoir acheter une forêt.
Donc Fêtes et Racines, c'est une association qu'on a montée il y a quelques mois pour agir face à la situation où on constatait des coupes à blanc de plus en plus autour de chez nous, des coupes rases de forêt. Et donc une des pistes qu'on avait, c'était d'acheter des parcelles de forêt menacées de coupes à blanc.
Chez vous, c'est où ?
Alors chez nous, c'est dans le sud de la Corrèze, au nord d'Argentat, donc pas très loin de la vallée de la Dordogne. Et donc ces jours-ci, enfin ça fait quelques mois qu'on a trouvé un massif forestier qui nous intéresse beaucoup pour acheter, qu'on a négocié avec un vendeur qui souhaite le vendre à nous, à notre association. Et cet ensemble de parcelles a beaucoup d'intérêt pour notre association, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement menacée. C'est un endroit où l'activité de l'industrie du bois est très forte. C'est une forêt âgée, avec très variée en essence et en biodiversité en général. Et c'est une forêt qui est facile d'accès en bord de route, donc qui offre une possibilité d'en faire une gestion douce. Donc elle avait tout plein de critères pour intéresser notre association. Et donc on a fini de négocier avec le vendeur, on est tombé d'accord sur un prix d'achat. Et ces jours-ci, on en est à lancer un appel à dons pour acheter donc, collectivement, donc pour que l'association se rende propriétaire de cette forêt et que l'usage de la gestion éventuelle de cette forêt soit déterminé par les membres de l'association. Donc il s'agit quand même de réunir une somme conséquente, puisque c'est une belle forêt avec des gros volumes de bois, donc il s'agit d'une quarantaine de milliers d'euros.
On parle de combien d'hectares ?
On parle de 8 hectares de forêt âgée, avec un pré attenant qu'on aimerait transformer en plateforme de stockage de bois, entre autres pour s'adresser aux riverains, c'est-à-dire aux personnes qui cherchent à valoriser leur bois sans faire des coupes à blanc, qu'on puisse mutualiser un espace de stockage jusqu'à avoir un volume suffisant pour le valoriser. Il y a également un étang donc qui ajoute de la valeur à cet ensemble et qui permet d'en faire un espace agréable où il pourrait y avoir des événements associatifs. Et donc 8 hectares de forêt âgée.
Ça veut dire que maintenant, il y a un appel lancé depuis peu. Vous cherchez à réunir cette somme jusqu'à la fin d'hiver, c'est ça ?
Voilà, on se donne... On aimerait bien avoir réuni cette somme, signer un compromis de vente au début du printemps, parce que comme ça, on pourrait prendre en charge tout ce qui est l'entretien de l'étang, etc., à la saison où la végétation pousse. Et donc, on se donne, voilà, les 5-6 mois qui viennent pour réunir cette somme. Et le siège de l'association, c'est l'espace pour adresser les dons et surtout nous rencontrer et en discuter. Et c'est à Argentat, au Silo, qui est une épicerie vrac et un café-librairie, place de l'église à Argentat.
Si les gens ils entendent cette émission et qu'ils voudraient vous envoyer une contribution, comment ils font? Est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse postale ou il y a quoi?
Alors le site internet est en cours de construction. Je pense qu'en tapant « Faites tes racines » dans un moteur de recherche d'ici 15 jours, 3 semaines, ça sera assez évident. « Faites » comme le fêtage, donc F-A-I-T-E. Et sinon, l'adresse postale, elle fonctionne déjà. C'est le siège de l'association, 4 places de l'église, 19400 Argentat.
Bien, mais bonne chance.
Merci.
Antoine, tu fais partie de tout un groupe dynamique ici en Limousin qui essaye de s'opposer à un projet, on l'appelle Pellet Torréfié. Donc d'abord, je voudrais que tu rappelles rapidement qu'est-ce que c'est ce projet, pourquoi vous considérez ça complètement inacceptable, mais assez brièvement quoi, pour commencer.
Donc ouais, alors il s'agit... c'est un projet qui se dit innovant, mais qui en fait correspond à des choses assez anciennes, c'est-à-dire c'est fabriquer du charbon à partir du bois vert, et qui servirait justement à remplacer le charbon, puisqu'il paraît qu'il faut faire la transition et plus utiliser d'énergie fossile. Le bois vert en question, il proviendrait des rémanents et des souches qui seraient arrachées aux parcelles forestières après une coupe à blanc, et donc c'est un projet qui déjà encourage le maintien, voire le redéveloppement des pratiques à la fois de coupe rase et de dessouchage, et de collecte de tout ce qui reste sur une parcelle après la coupe, et qui pourtant pourrait lui permettre de ne pas se stériliser, quoi. Donc ça, déjà, au niveau de la ressource, il y a un problème. Ensuite, quand on compte tout ce qu'il y a comme énergie grise qui sont investis dans la production du pellet torréfié du même, à la fin, il a sans doute plus de pouvoir calorifique qu'un bout de bois, mais sauf que tout ce qui a été investi dedans n'est pas compté là-dedans. Et donc, voilà. 45 000 tonnes de pellet torréfié par an. Depuis lors, j'ai entendu qu'il y avait un autre projet, mais ça c'est dans la Marne, 120 000 tonnes de pellet torréfié par an. Et puis qu'on a les centrales de... Cordemay et Le Havre qui risquent de passer aussi au pellet torréfié.
Des centrales à charbon.
Oui, des centrales à charbon qui veulent aussi utiliser le bois vert à la place du charbon. Donc tout ça, c'est un gros engouement industriel pour le bois et les résidus de bois qui risquent de s'intéresser aussi au bois sur pied ou à rond et qui est clairement en concurrence avec tous les autres usages du bois. Et qui en plus, du coup, voilà, stérilise des sols, tendanciellement remplace les forêts par des champs d'arbres à croissance rapide, à cycle court. Donc c'est tout un tas de choses qui ne vont pas du tout et contre lesquelles on est rentré en opposition.
Alors, je sais qu'il y a eu pas mal d'étapes, mais c'est peut-être difficile de rappeler tout. Mais en tout cas, maintenant, on est où avec ce projet? Il y a, j'imagine, des blocages juridiques, il y a des rencontres, des contestations, des manifs peut-être, mais... Qu'est-ce que ça donne?
Le projet a été annoncé, il y a eu une enquête publique. À l'issue de l'enquête publique, malgré une opposition assez affirmée, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. La préfecture et le comité départemental qui l'accompagnent ont aussi entériné la possibilité de lancer, donc donner leurs accords. Et depuis à peu près le mois de mars dernier, où il y a cet accord préfectoral, il ne s'est rien passé de plus du point de vue des industriels jusqu'à une petite communication très récente. Dans l'intervalle avec l'association des opposants, on a continué à faire beaucoup de réunions publiques, on a fait des mobilisations et des moments de rassemblement collectif, et avec un collectif un peu élargi, on a aussi organisé cet été sur le plateau de Millevaches les rencontres de la forêt, qui ont été un moment de convergence pour des personnes qui se soucient de la question de l'industrialisation massive des forêts actuellement et qui ont vu passer autant des assauts opposés à des projets de biomasse gigantesques que des personnes qui parfois avaient pu même mener des luttes victorieuses contre une méga-scierie par exemple dans le Morvan, celle de Hercia, et également les personnels de l'ONF qui, peu de temps après, ont lancé leur marche pour la forêt. Donc il y a pas mal de gens qui ont convergé, ça c'était bien, et on a continué à faire rendre visible l'opposition et essayer aussi de trouver des complicités à la fois localement mais aussi au-delà, donc à travers soit des réunions publiques, soit des rassemblements comme ça.
Juste au niveau de ce qui m'a frappé hier, c'est parler avec un forestier qui est quand même, enfin plutôt un propriétaire, un grand propriétaire de forêt,
et qui connaît extrêmement bien ce que c'est des forêts, et qu'il est complètement opposé à ce projet, parce que pour lui, c'est choquant totalement d'enlever les souches, ce que tu as dit avant, les souches, les remanents, que c'est la mort, quoi, c'est de ces terres, quoi, parce qu'on enlève tout ce qui peut amener le humus, enfin, etc. Voilà, bon, franchement, il n'arrive pas à comprendre comment on peut vouloir faire ça, mais est-ce que c'est rare, cet avis-là, ou est-ce qu'il y a quand même dans le monde forestier, je veux dire.
On a entendu un peu de tout, mais j'ai le sentiment que dès que les gens se posent vraiment des questions, moi ce que j'ai entendu par exemple de la part de forestiers, qui parlaient même de ce que leur faisait faire leur prof à l'école, c'est la sortie sur une parcelle qui a été coupée à blanc plusieurs années auparavant et qui n'a pas été replantée, qui est laissée, enfin ça peut faire 5 ans ou quelque chose comme ça, et ils disent à leurs élèves, regardez où pousse, où est-ce que ça revient, où vient la régénération naturelle, quelle est la taille de ce qui repousse, etc. Et le constat, il est que c'est dans les andins que ça repart le plus fort, parce que c'est les andins qui apportent la matière organique. Donc je pense que les forestiers qui acceptent de se poser un tout petit peu de questions sont tout à fait d'accord avec cet avis-là. Après, il y en a qui raisonnent à très court terme et qui ont pu nous dire ou nous envoyer même à la figure de manière un peu agressive « Mais non, ça va rien faire au sol ». On a un sénateur même qui n'y connaît rien du tout, qui est dans l'association qui s'appelle Soutien au développement économique de la Haute-Corrèze. Ils sont pour tous les projets de développement, quels qu'ils soient, c'est ça leur statut. Et le mec dit, le jour de la réunion de création de cette association, les opposants vont même nous inventer un truc comme quoi les souches contribueraient à enrichir les sols. Il perçoit les choses comme ça. Donc ça, il y a quelques discours un peu vraiment très bêtes et qui sont pour moi juste une manière de rester complètement inféodé à l'idéologie de l'argent et à dire là, il y a du fric à se faire, les autres questions, on ne veut pas se les poser. Mais dès qu'on se pose un peu de questions, évidemment, on sera d'accord avec ce que disait le gros propriétaire dont tu parles.
Et donc, autre évolution peut-être, c'est qu'il y a eu ce film qui parle beaucoup de Limousin, Le temps des forêts, qui a été montré à votre fête de la montagne, je crois, ou forêt plutôt, et qui a été montré dans beaucoup, beaucoup de villages ici. Je pense que c'est la région où peut-être ça a été vu par le plus grand pourcentage de population, probablement, en France. Ça fait quoi? Est-ce que ça renforce les gens qui contestent, qui comprennent maintenant, peut-être plus, pourquoi un tel projet est problématique?
J'ai l'impression que ça fait partie du débat public qui est de plus en plus insistant. Et c'est sûr que les salles de cinéma sur le plateau de Millevaches et dans les alentours immédiats étaient combles. Alors qu'à Limoges, par exemple, qui est quand même en Limousin, il n'y a pas eu énormément de monde. Ou d'autres endroits un peu plus éloignés, les gens ne sont pas très intéressés. Mais partout autour du plateau et sur le plateau même, il n'y a pas de cinéma sur le plateau, mais aux abords immédiats, il y a eu plein de monde qui est venu, et souvent des forestiers. Qui venaient, moi j'ai eu un récit comme ça, pas mal de gens qui viennent, qui prennent des notes, ils disent pas grand chose, ils observent, un peu regard en coin, mais ils sentent que les choses sont un peu tendues et que il y a quelque chose qui apparaît dans un débat public et où au final ça prend, ça fait partie de, ça soulève des bonnes questions, les gens sont intéressés, se disent il faut essayer de comprendre ce qui se passe à travers ce film qui montre des portraits divers et différentes approches de la question de la forêt moi j'ai l'impression qu'on serait dans une sorte de phase où heureusement on arriverait à remettre en cause la sylviculture industrielle comme on a pu remettre en cause l'agriculture industrielle et destructrice des sols. Il y aurait peut-être quelque chose qui commencerait à bouger à cet endroit-là, et je pense que le temps des forêts contribue à faire bouger les lignes à cet endroit-là.
Donc concrètement, par rapport à ce projet de Pellet, là, on est où là? C'est quoi les prochaines étapes?
Alors, à part les mobilisations dont je parlais, on a posé un recours juridique avec l'association. Et quand je disais tout à l'heure, l'industriel a fait une communication assez récemment en disant qu'il attendrait que le tribunal se soit prononcé pour commencer les moindres travaux. Je pense que c'est aussi parce qu'il n'a pas les financements. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que si les travaux commençaient malgré l'existence du recours, on poserait un recours suspensif en espérant qu'il soit accepté. Donc de leur côté, en tout cas, pour l'instant, ils ne bougent pas tant qu'il n'y a pas d'issue du recours. Nous, on est très confiants sur le contenu de ce recours parce que leur dossier est très mal ficelé. Et dans l'intervalle, toutes les discussions autour de la forêt, il y a eu aussi la marche pour la forêt quand elle a traversé le Limousin, il y a eu 80 personnes qui ont pu participer à une des étapes. Tout ça fait que les questions deviennent... il y a quelque chose qui a percé. C'est pas évident. Et donc entre la mobilisation collective et l'intervention en justice, on peut espérer qu'à un moment donné, ils vont laisser tomber. Mais ça n'empêche pas toutes les autres menaces qu'il peut y avoir sur le reste de la politique biomasse actuellement.
D'accord. Merci. Alors Nathalie, je voudrais que tu me racontes un peu cette aventure des carrefours forêts, parce que en Ardèche, donc, vous avez fait vraiment pas mal de carrefours forêts, je crois, genre une fois par mois depuis un bon moment. Alors c'est quoi cette idée?
Du coup, en fait, on s'est inspiré donc d'une initiative qui n'est pas partie du collectif Bois 07, mais qui nous a vraiment paru intéressante, parce que c'est donc le café forêt, pour nous, c'est un outil qui permet une grande liberté et diversité dans la façon d'intervenir. Donc l'idée, c'est de proposer aux gens, quels qu'ils soient, professionnels ou non de la forêt, on est tous usagers plus ou moins de la forêt, donc de venir se rencontrer dans un lieu public. Donc ça a été souvent un café, par chez nous, on faisait ça dans des bistrots de pays, par exemple, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que d'être dans un lieu ouvert au public, c'est que même des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un café forêt puissent y participer si ça les intéressait. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis surtout, dans ces cafés forêts, il y a plusieurs possibilités d'animation. Donc on peut mettre en place du photolangage, on peut mettre en place du débat mouvant, on peut faire des petites scénettes qui font apparaître voilà, des moments particuliers en forêt pour que les gens réagissent. Et l'idée, c'est vraiment que la parole tourne, que tout le monde puisse participer, que ce soit pour parler de son ressenti, que ce soit pour parler d'une expérience, que ce soit pour parler des choses plus techniques, peu importe. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de faire que tout le monde se rencontre, usagers, propriétaires, travailleurs de la forêt, et que chacun prenne conscience des contraintes et des besoins de l'autre, et instaurer ce dialogue, en fait.
Et donc... vous avez cherché un partenaire ou quelque chose localement dans un tel ou tel village pour organiser le café forêt? Comment vous organisez ça en fait?
En fait, c'est sous plusieurs formes. On essaye de faire un maillage géographique. Donc on essaye de faire à chaque fois dans un endroit différent. Au niveau des partenaires, ben, on a la chance d'avoir l'animatrice du RAF qui est avec nous. Donc on est assez régulièrement en contact avec elle et elle a participé à plusieurs animations. On a aussi fait plusieurs cafés forêts en lien avec la FRAPNA. La FRAPNA, c'est donc la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature et de l'environnement. Et voilà, on a également eu parfois la EPO qui a participé. Mais en termes d'organisation, c'est souvent nous qui avons été à la base. Et c'était vraiment dans l'idée aussi de se faire connaître nous, d'expliquer pourquoi en fait le collectif s'était monté, pourquoi il existait. Et que ce n'est pas juste une structure qui se rajoutait dans le paysage forestier en plus, quoi.
Et il y avait aussi une commune, je crois, une fois, non?
Oui, alors une fois, il y a eu une commune qui a eu un souci, qui s'est tournée vers le collectif parce qu'elle était en désaccord avec ce qui s'était passé dans sa forêt communale. Et que la discussion avec l'agent forestier local a été un peu compliquée et bloquée. Et nous, on lui a proposé de faire un café forêt, justement, sur cette commune, dans cette commune, pour permettre, parce que les habitants étaient vraiment très choqués et vraiment allaient à la mairie régulièrement pour râler, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et donc, ça nous a paru être un outil idéal pour que chacun exprime déjà ce qu'il avait ressenti, parce que là, pour le coup, on était vraiment dans le ressenti des habitants. Et puis surtout que les gens se parlent, que ça soit pas juste c'est de la faute d'un tel, on tape sur bidule ou on fait des trucs. Non, l'idée c'était qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et nous on n'était pas là pour juger et dire c'est très très mal ce qui s'est fait ou pas. Non, c'était juste pour que les gens s'expriment et qu'on puisse expliquer peut-être ce qu'on aurait pu faire différemment, mais surtout qu'il y ait de nouveau un dialogue et un contact qui se crée, quoi.
Il y a beaucoup de monde qui viennent, ça varie, j'imagine.
C'est très aléatoire. Ça nous est arrivé d'être 5, comme ça nous est arrivé d'être 25, 30. Alors, dans l'idéal, c'est plus confortable quand on est entre 15 et 20 personnes, parce que du coup, là, il y a vraiment des échanges. Plus on est nombreux, plus c'est difficile que la parole puisse tourner. Voilà, pour l'animation aussi, c'est quand même plus facile faire un débat mouvant à 100 personnes ou faire un débat mouvant à 15, c'est quand même... voilà. Mais en moyenne, dans l'absolu, on va dire, c'est plutôt 10-15 personnes quoi, qui sont présentes à chaque fois.
Et de ces cafés, il y a parfois des initiatives ou quelque chose qui reste dans le temps, qui sort, ou c'est plutôt juste une prise de conscience peut-être, ou un échange?
Oui, c'est plutôt la deuxième solution. Souvent, les gens, ils ont entendu parler du collectif, donc ils nous connaissent, ils nous identifient, ils ont compris c'était quoi les missions qu'on proposait. Et voilà, il y a des gens qui vont adhérer au collectif, qui vont revenir vers nous pour qu'on aille visiter leur forêt, si c'est des propriétaires ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui a pu s'inscrire dans le temps, qui se soit vraiment formalisé et créé.
Rappelons en quelques mots le collectif quand même, parce que ça va mieux.
Donc le collectif Bois 07, c'est une association loi 1901 qui s'est montée donc plutôt en Sud-Ardèche, qui existe maintenant depuis 2012, et donc qui remonte une filière de bois local. Donc il y a toute une partie négoce, conseil de gestion et donc proposition de vente de bois brut de scierie. Donc voilà, on fait du sciage à façon en fait. Et il y a un volet aussi plus animation, sensibilisation, formation, aussi bien professionnel que pour les particuliers, et qui est là pour développer l'idée qu'on a de la forêt, donc gestion douce et charte du RAF et ce genre de conviction, quoi.
Donc les gens, si je comprends bien, à l'origine de Bois 07, c'est pas mal les artisans, les charpentiers, les menuisiers, etc., mais qui voulaient avoir du bois local, mais aussi savoir comment ce bois était, enfin, le modèle de gestion, quoi, parce que ce n'est pas un couperasse, par exemple.
C'est ça, oui, c'est exactement ça. C'était un ensemble de professionnels qui étaient sur un chantier commun. Ils se sont dit, c'est super, on transforme du bois, mais on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas comment il a été récolté, comment les gens qui le récoltent ont été payés. Donc ils se sont dit, puisqu'on n'arrive pas à avoir ces infos-là, on va nous-mêmes le faire, comme ça, on va en tout cas essayer. Et puis comme ça, au moins, on va se rendre compte concrètement de ce que c'est et puis de ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc au début, c'était plus sur de la sensibilisation et de l'information. Et puis petit à petit, il y a eu une vraie volonté de développer toute la partie négoce, donc achat de bois sur pied. Donc ensuite, c'est le collectif qui fait des contrats avec bûcherons, débardeurs pour justement se mettre d'accord avec eux sur une rémunération juste. Et derrière, on transforme tout en circuit court. Donc on travaille avec un scieur principal qui est scieur mobile. Et puis ensuite, donc soit on vend tout en direct, soit on vend par l'intermédiaire d'un magasin de matériaux écologiques basé sur Aubenas.
Merci. C'était « Vive l'irrégularité », deuxième partie. Il s'agit de la 25e émission de la série « Entre cimes et racines » réalisée par Radio Danzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur le RAF, consultez son site www.alternativeforestiere.org où vous pourrez également réécouter ou télécharger cette émission. Toutes les musiques qui ont accompagné cette émission sont de Göran Manson, flûtiste suédois, et ses amis.